Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchée comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Mehdi Djadi. Ce musulman devenu catholique raconte son histoire de conversion dans un seul en scène coming out, à l'arrêt aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Comment la grâce vous tombe-t-elle dessus un beau jour et qu'implique-t-elle comme changement de vie? J'ai posé ces questions à Mehdi Djadi et je le remercie pour ce bel entretien plein d'émotions. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Alors, pour commencer, quel objet avez-vous apporté qui est en lien avec l'histoire, un lien symbolique avec l'histoire que vous allez nous raconter, qui la représente en quelque sorte?
Alors, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre un chapelet, parce que je pense que la première fois où le Seigneur a touché mon cœur, c'est par des religieuses qui faisaient le chapelet et qui le récitaient à la radio. Et le petit garçon que j'étais écoutait la radio et aimait beaucoup entendre la voix de ces femmes. Et je suis convaincu qu'elles priaient pour les auditeurs. Et voilà, peut-être que ça a été la première graine semée dans mon cœur. Mais comme c'est un objet que je n'ai pas eu physiquement entre les mains, j'ai choisi de prendre la toute première Bible qui m'a été remise entre les mains par un pasteur en 2003. Il y a d'ailleurs la date inscrite dessus. Et non seulement cette Bible m'a nourri dans les premières années, elle continue à le faire. Et celle-ci, tout particulièrement, je l'ai toujours chérie, gardée, protégée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai prise ce matin dans la bibliothèque.
Alors, nos auditeurs ne peuvent pas la voir, mais elle est effectivement très touchante, cette Bible, parce qu'on sent qu'elle a été lue, relue, elle est toute annotée, surlignée. On sent que c'est un objet qui a été vraiment chéri. Et pourtant, rien n'indiquait que vous puissiez avoir ce type d'objet entre les mains, parce que vous venez d'un milieu complètement différent du milieu chrétien. Pour bien situer les choses dans leur contexte, pour que nos auditeurs comprennent, beaucoup vous connaissent, mais il y en a qui ne vous connaissent pas. Dites-nous, dans quel milieu avez-vous été élevé? D'où venez-vous?
Je viens d'un milieu populaire, ouvrier, dans une ville, dans une très belle ville qui est Saint-Étienne. Alors, quand je dis très belle ville, ça peut faire sourire parce qu'effectivement, elle est pas très jolie comme ville. Elle est très belle parce qu'elle a une âme et on sent l'âme des mineurs de fond, toutes ces personnes, tous ces ouvriers qui se retrouvent effectivement au stade le week-end et qui partagent. Il y a des vrais moments de communion dans cette ville et il y a un vrai attachement. Chaque Stéphanois a un vrai attachement à cette ville. Et voilà, je suis très heureux d'être né à Saint-Étienne, de deux parents algériens, un père qui est venu dans les années 70 et une maman qui est venue en 1960, à l'âge de 6 mois, dans la campagne stéphanoise, à Saint-Cyprien, et donc qui, elle, a grandi vraiment dans la campagne près de Saint-Étienne. Et c'est un peu dans cet univers que j'ai grandi, dans un quartier populaire, où on était tous mélangés. Il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup de Turcs, beaucoup de Maghrébins, des Polonais, des Espagnols. Voilà, il y avait vraiment une grande diversité et en même temps, on était chacun dans notre communauté et moi je faisais partie de cette communauté maghrébine et musulmane et voilà, c'est là-dedans que c'est dans ce milieu que j'ai grandi.
Alors, je crois que vous étiez un petit garçon très religieux, très attaché à la foi musulmane. Et donc, vous avez passé, je pense, une enfance heureuse et pleine de foi. Mais je crois qu'à l'adolescence, les choses ont changé. Et sans du tout renier votre identité de musulman, vous avez fait voler en éclats un peu le carcan, ce que vous ressentiez à ce moment-là comme un carcan de la pratique religieuse. Et vous avez commis des actes de délinquance qui vous ont fait vous frôler la prison. Et c'est là que la providence veillait. Elle est souvent facétieuse. Parce que c'est en provoquant un pasteur protestant que celui-ci vous a offert cette Bible que vous nous avez présentée au début. Bible que vous lisez, et là, c'est un premier coup de cœur pour Jésus.
Oui, c'est vraiment le mot, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que dans le coup de cœur, il y a un coup. Et effectivement, ça m'a un peu tombé dessus comme un coup. Moi qui avais été ce petit garçon et cet adolescent pieux, paradoxalement, j'étais aussi un petit garçon, un adolescent très turbulent et justement qui après a posé des actes de petite puis de plus grande délinquance. Mais j'avais vraiment, et je rends grâce à mes parents pour ça, ils m'ont vraiment transmis la croyance en Dieu. Ça faisait partie de nous. Et effectivement, moi j'avais vraiment cet attachement à Dieu et je voulais vraiment être bon pour Dieu, comme je n'arrivais pas trop à être bon pour mes parents, bon pour l'école, bon pour plein de choses. Je me suis dit, je vais essayer d'être ce petit garçon pieux. Donc j'étais très fier de faire mes prières, très fier de faire le ramadan, très fier de faire l'appel à la prière à la mosquée. Mais je voyais aussi que par mes comportements, j'étais toujours en train de courir après mes bonnes actions, devoir toujours rattraper un peu ce que je faisais de mal. Et donc j'avais quand même quelque part au fond de moi peur de Dieu parce que je commettais beaucoup de péchés. Et puis j'ai effectivement accepté la Bible de ce pasteur pour deux raisons. Par curiosité, parce que là aussi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous a vraiment éduqués à la curiosité, on était les seuls dans mon quartier à aller à la bibliothèque le mercredi après-midi. Elle voulait pas qu'on traîne dans le quartier. Donc j'avais vraiment reçu ça de ma bonne mère. Et donc il y a eu d'abord la curiosité qui m'a poussé vers cette Bible, mais aussi la provocation que j'avais pu avoir envers ce pasteur. Je savais que les chrétiens étaient les gens du livre. Mais je savais aussi qu'ils étaient totalement égarés et qu'ils avaient divinisé Jésus. Et que voilà, moi, j'étais imprégné de tout ça. Toute mon enfance à l'école coranique était imprégnée de ça. Et donc, j'ai voulu voir de mes propres yeux. J'ai voulu lire de mes propres yeux. Et effectivement, la vie de Jésus m'a bouleversé parce qu'elle était loin de celle que je pensais connaître dans le Coran, où c'était un prophète, alors oui, qui avait fait des miracles, etc., mais qui venait surtout pour annoncer la venue du prophète Mahomet. Et moi, je découvre à travers ces pages la vie à la fois d'un homme, mais en même temps d'un Dieu qui ne fait que prêcher l'amour, que prêcher le pardon. Et moi, le jeune adolescent que j'étais, en avait bien besoin de ce pardon. Et l'histoire du bon larron me touche profondément, l'histoire de la pécheresse de Marie-Madeleine me touche profondément. Et donc effectivement, je me plonge dans sa vie et j'ai un coup de cœur et j'ai presque un coup de foudre pour ce Jésus. Ouais.
Au point de vous faire baptiser chez les protestants.
Au point, oui, après plusieurs années, effectivement, après 3-4 ans, parce que la Bible date de 2003 et j'ai demandé le baptême en 2007, j'avais la certitude dans le fond de mon cœur, toujours en me nourrissant de la parole de Dieu, que c'était en devenant son disciple que j'allais pouvoir être libre et libéré de mes colères, libéré de tous mes problèmes. Et, Et donc, même si, donc comme je ne suis pas un catho d'élevage, chrétien d'élevage, voilà, moi, je n'ai pas été biberonné à ce que peut être, à ce que peut être la conception du baptême, etc. Donc, mais j'avais la certitude au fond du cœur que c'était ce que je devais faire pour être son disciple. Et ça tombe à un moment où, où j'étais assez porté vers la culture orientale et notamment celle des samouraïs. Et j'aimais beaucoup la, la notion de maître et de disciple que j'ai pu retrouver après dans, dans, dans la philosophie, notamment avec les Grecs, où il y avait vraiment le maître qui enseignait à ses élèves, à ses disciples. Et donc j'ai un peu pris ma relation avec Jésus comme, comme celle d'un maître et d'un disciple. Et que ben pour, la, pour le suivre, la première étape allait être celle du baptême. Et donc j'ai demandé à être baptisé dans, dans une rivière, seul, avec, avec une personne qui était membre du conseil presbytéral, donc qui est la seule condition pour pouvoir être baptisé dans, le, dans l'Église réformée de France. Et donc, quand, quand j'ai été baptisé et plongé dans les eaux de cette rivière, je, j'ai senti... Et après, je l'ai creusé et alimenté cette filiation au Fils, au Père et à l'Esprit. Maintenant, à partir de ce moment-là, je leur appartenais. À partir de ce moment-là, allait commencer une nouvelle vie pour moi, que j'idéalisais peut-être un peu au début.
Est-ce que vous en étiez vis-à-vis de votre vie à ce moment-là? Est-ce que vous étiez un peu dans les eaux troubles de la délinquance?
Alors, je venais, justement, je venais de les quitter. Je venais de quitter les eaux troubles de la délinquance après quelques années, effectivement, de, d'actes assez, assez graves que j'avais posés, notamment dans des escroqueries de banque, ce que je raconte aussi un peu dans, dans le spectacle que je joue. Je voyais bien qu'il y avait dans mon cœur un vrai désir de suivre le Christ, mais que dans mes actes, je posais des actes qui allaient totalement à l'encontre à la fois de la foi de mes parents, mais aussi de ce désir que j'avais de suivre le Christ. Et pourtant, j'avais ce talent, on va dire, ce qui m'a servi pour les escroqueries de banque, j'avais ce talent d'imiter, j'avais ce talent voilà, j'usurpais les identités des personnes. Donc, et je me disais, mais je fais tout ça pour une cause qui est mauvaise, en fait. Je le sentais, j'en avais profondément conscience de ça. Et donc, j'avais vraiment envie de sortir de ça. Et puis, c'est une autre rencontre, qui a eu celle du pasteur. C'est la rencontre d'un éditeur à Valence, Greg, qui a accepté de m'héberger, qui a accepté que je quitte Saint-Étienne, enfin, qui m'a proposé de quitter Saint-Étienne pour aller vivre à Valence. Et donc, j'ai noué cette amitié avec lui. J'ai abandonné les escroqueries de banque, le grand banditisme. J'ai commencé à faire du théâtre. Et du coup, à demander le baptême. Mais je pensais qu'à partir de là, ma vie allait être belle, rose, que c'est bon, j'allais suivre le Christ. Mais j'avais peut-être sous-estimé la croix, sous-estimé... La difficulté en tout cas terrestre de suivre le Christ. Et la première barrière qui est venue se mettre devant moi, c'est la réaction de mes parents, où ça a été très très dur pour eux, et je peux le comprendre, très très violent pour eux de savoir que leur fils prenait ce chemin là le chemin de l'égarement, que c'était peut-être même Dieu lui-même qui m'avait égaré. Donc ça a été une... Oui, en islam, on dit que Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. Et donc pour mes parents, voilà, Dieu m'avait égaré, que c'était peut-être voilà, que c'était sa volonté et que c'était leur épreuve. Et de faire subir ça à mes parents, ça a été dur pour moi. Ça a été dur aussi parce que ça a donné lieu à des vraies ruptures dans le dialogue, dans voilà, la violence dans les mots, dans les choses qu'on a pu se dire. Pendant plusieurs années, on ne s'est pas parlé. Et puis même moi, de les voir tristes, de les voir... surtout mon père, pour qui voilà, lui qui avait été si fier de moi, me voir prendre ce chemin, ça a été pour lui très difficile. Donc voilà, première barrière, ça a été celle-ci. Et puis après quelques années de théâtre, j'ai quitté Valence pour faire une école supérieure d'art dramatique, une des grandes écoles avec le Conservatoire de Paris ou l'ENSAT à Lyon. Il y en a une à Lausanne. Et donc, quand je suis arrivé dans cette école, j'ai été confronté à des gens qui étaient athées, profondément anticléricaux, qui ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre. Et ça a été dur de me confronter à ça. Il a fallu aussi que je mette de la raison sur tout ce que je vivais. Et voilà, j'ai compris à ce moment-là que suivre le Christ, ce n'était pas de tout repos, que ça allait demander des sacrifices. Ouais.
Une première partie de conversion assez rêche, j'ai l'impression, assez, pour se mettre vraiment à la suite du Christ. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, à Lausanne, du coup, vous êtes à Lausanne, et vous n'êtes pas très à l'aise avec certains points théologiques du protestantisme, comme la prédestination, ou le rapport avec l'argent. Il y a aussi certains prêches évangéliques qui vous choquent un peu. C'est souvent un peu un show du pasteur, parfois.
Ouais.
Voilà, donc vous êtes dans un contexte d'interrogation. Et puis, il y a un ami catholique que vous aviez rencontré en centre éducatif, qui vous amène un beau jour faire une retraite dans un monastère.
Ouais.
Un protestant dans un monastère catholique.
Ex-musulman.
Ex-musulman.
Je fais beaucoup.
Non, mais c'est un choc des cultures.
Ah oui, en école de théâtre, parce que je suis en première année de théâtre, donc je cochais toutes les cases qu'il ne fallait pas. Quoi. J'étais ex-musulman, futur saltimbanque, protestant. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas ?
Au milieu des moines.
Et effectivement, cet ami d'ailleurs m'a dit plus tard que quand il m'a proposé de faire cette retraite, il savait justement que j'étais très curieux, très ouvert. Il me dit, bon, si je t'ai proposé, c'est que je pensais que tu pouvais dire oui. Il me dit, j'étais surpris que tu répondes aussi vite et que tu acceptes aussi vite, que tu prennes les billets de train. Et en fait, je pense qu'effectivement, ça, j'avais besoin, après cette première année dans cette école d'art dramatique, après cette première année où effectivement, la parole de Dieu me nourrissait toujours, mais dans mes lectures, lectures de Calvin, lectures de Luther, comme j'étais en Suisse, j'ai vraiment voulu me plonger dans toute cette histoire protestante. Je voyais aussi beaucoup d'incohérences. Et c'est vrai que sur la pauvreté, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Alors oui, les réformés, quelque chose de très austère, le travail, le labeur, etc. Mais peut-être, j'allais dire les dogmes, c'est pas vraiment des dogmes, mais dans les pensées du protestantisme lié au capitalisme, etc., il y avait quelque chose qui collait pas. Et puis, effectivement, le point d'orgue qui a été celui de ces prêches de pasteurs, quand j'allais tous les dimanches au temple, qui ne me rejoignaient plus, qui ne me nourrissaient plus. Et donc, j'accepte d'aller faire cette retraite avec lui. Et c'était une retraite de quelques jours, 3 jours. Et le premier jour, bon, je m'attendais à pas grand-chose, mais l'image que j'avais des moines, c'était effectivement des personnes très âgées, ou alors les références au cinéma, comme je dis dans mon spectacle. Je dis, bon, voilà, moi, je m'attendais à voir le frère Toc et un moine qu'on a sur un fromage, quoi. Enfin, voilà, c'était un imaginaire. J'ai pas eu de culture chrétienne, catholique, et puis... Rien ne me prédestinait à ça. Donc, et le premier jour, en fait, j'ai été d'abord touché par le nombre. C'était à l'abbaye de Seffon, dans l'Allier, des frères cisterciens. Et ils sont plus de 80. Moyenne d'âge entre 35 et 40 ans. Et des Africains, des Asiatiques, des Tchèques. Et donc de voir ces moines si nombreux, si joyeux, parce qu'on sentait entre eux, même s'ils étaient en silence, on sentait beaucoup de joie. Ils se faisaient des petits sourires pendant les offices, on sentait que ça taquinait un petit peu. Donc j'étais très surpris. Et puis, ils se sont mis à chanter. Et tout à l'heure, on parlait de ma Bible annotée. Le livre des psaumes, c'est le livre qui est le plus couvert de couleurs. Quand je les ai entendus chanter les psaumes, j'ai entendu Dieu chanter en moi. Pour moi, les psaumes renferment toute l'histoire de la révélation. La désolation, la consolation, l'attente, l'espérance du Messie, tout est renfermé dans les psaumes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les psaumes et la liturgie des heures, d'ailleurs, que j'ai découvert avec les moines. Et effectivement, de les voir chanter les psaumes, de les entendre, vraiment, ça a résonné en moi. Dieu chantait en moi à travers ces moines. Ça a été la première gifle sensible, le premier coup, pour en revenir au coup, tout ça. Et le deuxième jour, alors que j'assiste à tous les offices, parce que je trouve leur voix magnifique, que je me prends vraiment à aimer la liturgie, y a la messe. Et lors de la messe, alors maintenant, le mot, la phrase, je l'ai, hein, je goûte à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Mais sur le moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Sur le moment, ce que je sais, c'est que ce qui est exposé, cette espèce de bout de pain sur la table, je sais que c'est le Jésus que je prie depuis une dizaine d'années, enfin depuis quelques années. J'en ai la certitude, je me sens vraiment enveloppé de sa présence, je me sens bien, et je sens qu'il est là en fait. Que c'est le même à qui je parle dans mon cœur. Là, c'est comme si, c'est comme si il était aussi près que vous là maintenant dans le studio. Donc, et j'ai aucune connaissance de ce qu'est la présence réelle. Et je me mets à pleurer et à m'incliner devant et à comprendre pourquoi tout le monde s'incline. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ce que je sais, c'est que quand je suis sorti de la messe, je suis allé voir mon ami, Jonathan, qui m'avait proposé cette retraite. Et on parlait, et j'avais l'impression qu'un voile était tombé. Non pas que je comprenais, mais en tout cas que je goûtais au mystère, à la succession apostolique, tout devenait clair en fait. En tout cas, je percevais le mystère. Et je me souviens très bien de ce que j'ai dit au frère hôtelier quand je suis allé le voir. Je dis mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit c'est la présence réelle. Je crois qu'il a dû me dire la transsubstantiation. Je crois que c'est un code Wi-Fi moi la transsubstantiation. Et je dis mais c'est tout le temps comme ça. Et il me dit à chaque fois que le Saint-Sacrement est exposé, à chaque messe. Et là, j'ai eu faim. J'ai eu envie de manger. Et c'est là où il m'a dit que je devais faire du catéchisme et que j'allais faire un parcours de catéchuménat adulte.
Oui, c'est ce que je me demande. Vous décidez tout de suite de devenir catholique ou c'est un long cheminement progressif?
Pour moi, je suis catholique. À partir du moment où il m'explique, voilà, on a quelques échanges, mais il m'explique la présence réelle, ça colle parfaitement avec avec l'expérience mystique que je viens de vivre. Et donc tout ce qui découle après, même si par la suite je vais le remettre en question, je vais d'ailleurs faire une année à Philanthropos qui va être très difficile pour moi. Philanthropos, c'est un institut de philosophie et de théologie en Suisse. Je vais devoir confronter tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vécu à la lumière de la raison. Je vais découvrir l'Église dans ce qu'elle a de magnifique, la vie des saints, toute son histoire, toute la richesse, et notamment liée à la France, mais aussi la part sombre aussi de l'Église. Mais pour moi, c'est un tout. Et ce tout, je me plonge dedans parce qu'il me nourrit, il étanche ma soif et en même temps il me donne de plus en plus soif. Plus je bois, plus j'ai soif et c'est ce cercle vertueux qui fait qu'assez rapidement, que pour moi, je suis catholique. Si catholique, c'est reconnaître la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, alors pour moi, c'est clair. Il y a 2 ans, effectivement, de catéchuménat adulte qui ont été, pareil, très durs à vivre, puisque bon, c'était en Suisse, apparemment, en France, c'est pas pareil, mais, j'ai l'impression que ça ne me nourrit pas assez. Alors, je suis peut-être un peu boulimique, moi, à cette période, mais, Mais effectivement, j'ai trouvé dans mon père spirituel et surtout sur Internet toutes les réponses aux questions que je me posais. Et en fait, moi, je dis très souvent, je n'ai pas eu l'impression que l'Église m'a imposé des dogmes. Ma foi profonde a épousé les dogmes de l'Église catholique. Il y a eu des choix. Alors, il y a des choses qui ont mis peut-être un peu plus de temps à venir. Mais sinon, non, à part ça, j'étais profondément disposé à être libre, en fait, pleinement avec le Christ.
Et quand on est baptisé chez les protestants, comment ça se passe en fait concrètement pour rejoindre l'Église catholique? Vous n'êtes pas rebaptisé? Vous êtes
Non, mon baptême était valide.
Oui,
j'ai dû faire ce qu'on appelle une entrée en pleine communion,
okay.
D'où le catéchuménat pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Jonathan était avec moi. Il m'accompagnait pour à Pâques 2013 pour la veillée pascale. J'ai pu communier. Et d'ailleurs, c'était très beau parce que le journal que je tenais dans l'abbaye, j'ai tenu un petit journal. Je me souviens de la dernière, quasiment une des dernières phrases que j'ai écrites, qui était « Je m'en vais d'ici en pleurant ». Alors, il faut faire attention au style, hein, c'était pas très poétique. Mais en gros, je disais « Voilà, j'ai une larme sur chaque joue, une de joie parce que je connais Jésus dans son Eucharistie ». Et une autre sur l'autre joue parce que je ne peux pas encore le manger. Et après ces 2 ans, j'ai pu communier. 40 jours après, j'ai fait ma confirmation. J'étais tout seul. Tout le monde était avec sa famille, avec ses amis. Et quand je dis que j'étais tout seul physiquement. Mais au moment où j'ai dit « me voici », j'ai vraiment entendu au fond de moi un « nous voici ». J'étais avec Jésus, j'étais avec les saints, parce que j'ai commencé à avoir une grande dévotion pour les saints et pour la communion des saints. Et vraiment la sensation que même si j'étais seul, même si effectivement j'avais des sacrifices à faire, notamment avec ma famille, avec mes amis... Je me voyais un peu comme un pèlerin accompagné de toute la cour céleste. Et d'ailleurs, mon saint préféré, c'est saint Benoît-Joseph Labre, qui est un pèlerin itinérant, qui a marché des milliers de kilomètres, mendiant. Voilà, il m'a toujours profondément touché, parce que j'ai l'impression que voilà, notre passage sur Terre, il est aussi celui-ci d'être des pèlerins pauvres, mais accompagnés.
Voilà, la question que je me pose... C'est que vous avez souvent dit qu'être musulman, c'est pas seulement avoir une foi, c'est aussi une identité, c'est une façon de penser, enfin c'est un tout organique. Et donc en devenant chrétien et catholique, vous rompez forcément avec cette identité, vous devenez quelqu'un d'autre. Mais changer d'identité comme ça à l'âge adulte, est-ce que c'est pas hyper difficile, déstabilisant?
Bien sûr, parce que c'est à plusieurs niveaux. Il y a un véritable changement de vie et changement d'identité, c'est vrai, dans la conception de Dieu, passer d'un Dieu un à un Dieu trinitaire, la charité au-dessus de tout, dans la foi catholique, alors que dans l'islam, beaucoup moins, le rapport à la communauté, faire partie de la Oumma en tant que musulman, de la meilleure des communautés, très oppressé, etc., à une autre communauté, qu'effectivement, c'est de la communion des saints, passé, présent, futur. Tout ça met vraiment du temps. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'il y a pu y avoir cette appropriation et ce changement. Donc oui, il y a de véritables changements d'identité. Et en même temps, je ne suis plus du tout musulman, mais il y a une vraie réconciliation. En tout cas, il n'y a pas de rupture entre la culture que j'ai pu avoir, l'éducation que j'ai pu avoir, et l'homme que je suis aujourd'hui, le chrétien que je suis aujourd'hui. Je me sens encore 100% algérien, d'origine algérienne, comme je me sens à 100% de français. J'aime beaucoup cette expression, je la dis souvent, je suis vraiment un français de tripes. J'aime la France avec mes tripes. Et la foi catholique m'a d'ailleurs réconcilié avec la France. J'aimais pas beaucoup la France, j'aimais pas beaucoup les Français. Je trouvais les chrétiens comme étant des égarés et les autres comme étant encore plus égarés, les laïcs, les républicains, tous ceux qui vivaient avec cette pensée très progressiste, je les avais en horreur. Et puis, de devenir chrétien, ça m'a aussi réconcilié avec tout ça. Ça a mis du temps, mais parfois, je sens encore les moments de friction. Par exemple, avec mon épouse. Je sens que pour les chrétiens français de souche, parfois...
Elle, elle est française de
française
souche.
Française de souche, catholique d'élevage. mais qui a vécu une très belle conversion aussi. Mais je sens que parfois, sur des petites choses, il faut prendre le temps de discuter, trouver le bon équilibre. J'ai souvenir de notre pendaison de crémaillère, où pour moi... on pouvait faire la bénédiction de l'appartement et dans la foulée faire la pendaison de crémaillère avec tous nos copains. Pour moi, c'était un tout. Et pour elle, non. Pour elle, il fallait faire d'abord la bénédiction de l'appartement un jour et puis un autre jour. Et en discutant ensemble, on s'est rendu compte que parfois les chrétiens français avaient plus cette capacité à compartimenter les choses que les musulmans où c'est un tout. Et c'est peut-être le seul reste que j'ai de ma foi musulmane. C'est ce tout. C'est quand je suis sur un tournage à la cantine, quand je mange, je me signe avant de manger. Pour moi, c'est un tout. Alors que parfois, des chrétiens qui parfois peuvent travailler dans des journaux chrétiens ou n'osent pas. C'est comme s'il y avait le religieux d'un côté, le politique de l'autre, le social de l'autre, et qu'ils essayent tant bien que mal d'articuler le tout. Alors que pour moi, c'est un tout. Donc c'est peut-être un des restes de mon héritage musulman, c'est ce tout. Je suis catholique. Alors, je rends à César ce qui appartient à César, mais ma foi guide mes choix politiques, sociaux, professionnels, etc.
Et vous avez trouvé facilement votre place dans la société parce que donc j'imagine qu'avec votre communauté musulmane d'origine, les liens doivent être forcément quand même beaucoup plus distendus qu'avant, voire brisés, voire à jamais terminés. Et puis vous êtes trop catholique maintenant pour les musulmans et peut-être que vous êtes trop musulman pour les catholiques. Ça n'a pas été difficile aussi de trouver sa place dans la communauté catholique. Vous vous sentez pas trop seul de votre espèce?
Si, et c'est pour ça que je reviens un peu à Saint-Benoît-Joseph-Labre, ce pèlerin mendiant qui trace sa route
sans feu ni lieu.
Maintenant, ça va mieux. Il y a un vrai apaisement. Et puis, je sais aussi qu'avec mon épouse, ça nous a aussi beaucoup porté. Mais oui, effectivement, je sens que... je me sens de plus en plus éloigné de cette culture musulmane, de cette foi musulmane, même si j'essaie de garder des petits liens. Pas plus tard qu'hier, j'étais chez mon barbier, qui est musulman, algérien. C'est une des seules personnes avec qui je peux parler arabe. Mais effectivement, je fais plus partie de la communauté. Dans la communauté chrétienne, ça a été très difficile aussi. Et quand vous êtes converti, c'est comme si vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si quelqu'un apprend que vous avez péché, que une soirée, vous avez peut-être trop bu ou je ne sais quoi, tout de suite, vous êtes vu comme un tartuffe. Et de l'autre côté, si vous êtes justement juste catholique, vous voulez être plus royaliste que le roi. Et donc, il faut trouver le juste milieu en disant c'est pas parce que maintenant je suis catholique que je suis plus pécheur, quoi. Donc ça a été difficile. Ça a été difficile aussi parce que on est tous justement de pêcheurs et on fait tous avec nos petits moyens. Mais les premières fêtes de Pâques ou de Noël, etc., ou même des dimanches, rentrer chez moi seul, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de mal pendant de longues années. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu difficile pour moi le moment de la paix du Christ pendant la messe, parce que je me dis oui, oui, on est déjà dans la paix du Christ quand on est ici, et d'avoir ce petit geste qui sur le moment on se dit la paix du Christ, mais une fois qu'on est sorti, il y a plus rien. Voilà, pendant longtemps ça a été difficile, et aujourd'hui je trouve un équilibre. Et moi je rajouterais même un autre aspect, c'est dans le milieu artistique et culturel, je suis aussi vu comme un ovni. C'est un milieu qui est très progressiste, très anticlérical. Donc voilà, je me sens à la fois appartenir aux trois et en même temps, pas du tout. Donc j'ai un pied dedans, un pied dehors, et j'essaie de trouver le bon équilibre avec ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va quand même un peu mieux. Je suis beaucoup plus en paix avec ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des tiraillements et que ça.
Et justement, et que ça je me posais la question sur votre métier, justement sur ce secteur du spectacle professionnel qui est pas très catholique, voire très anticlérical. Vous n'êtes pas posé la question de le quitter pour une cohérence justement avec votre foi qui.
Ah ben si, quand je suis sorti de l'école de théâtre après 3 années, je voulais pas être un comédien. Donc je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques en priant le bon Dieu. Et c'est là où le Seigneur a beaucoup d'humour. Sur le chemin de Saint-Jacques est née ma dévotion à Marie, parce que je connaissais pas, j'avais pas de lien vraiment filial avec Marie. Mais la certitude, en tout cas le bon Dieu, m'appelait à être un témoin du Christ dans le milieu artistique. J'ai pas accepté. Je suis parti faire un autre pèlerinage à Rome, cette fois-ci à pied, en partant de Milan. Et pareil, le Seigneur qui me demande d'être son disciple, en tout cas un témoin de lui dans le milieu artistique. Si bien que sur le chemin de Rome, j'ai eu un appel, le premier appel de mon agent pour le premier casting que je passais pour un film, pour un rôle principal dans un film très de gauche, etc. Donc je me dis bon, c'est quand même un signe très fort. Et je dis très souvent que j'ai eu plus de mal à accepter cette vocation-là que si j'avais dû rentrer dans les ordres. Moi, je voulais être prêtre.
Ah oui, carrément.
Alors moi, je rends grâce aujourd'hui à Dieu de ne pas l'avoir été, parce que sinon, j'aurais jamais rencontré mon épouse. mais c'est vrai que sur le moment, ça a été beaucoup plus difficile d'accepter cette vocation que si j'avais. Parce que moi, le désir était là de rentrer dans les ordres. J'avais le désir, mais j'avais pas l'appel. J'avais rencontré les frères de la Miséricorde divine à Toulon, quoi, un apostolat pour les musulmans. Enfin,
moi, c'est là. C'était le candidat rêvé.
Ah ben oui, oui. Mais non, le bon Dieu voulait pas. Et effectivement, je vois qu'au quotidien, que ce soit sur les films ou dans les pièces dans lesquelles j'ai joué, j'ai toujours une ou deux rencontres très fortes avec une personne qui a priori partage pas du tout les mêmes vision que moi du monde, mais il y a des vraies rencontres. C'est...
Vous arrivez à témoigner dans ce milieu ?
En fait, les gens sont très curieux. Alors, effectivement, dans ce milieu, comme ils sont qu'entre eux, ils n'ont pas souvent l'habitude d'être, d'être au quotidien avec des catholiques, ou alors ils ont... Les catholiques, pour eux, c'est le cliché qu'on en a. Et effectivement, je suis très loin du cliché. Ce qui, justement, me permet de sortir du cliché et d'aller tout de suite sur une discussion. Alors, une fois qu'on a dépassé les discussions très politiques et très polémiques sur l'avortement, sur l'homosexualité, là, on peut rentrer dans une discussion un peu profonde. Moi, je vais à leur rencontre et ils vont à mon rencontre. Et c'est très beau, d'ailleurs, de voir à quel point beaucoup de catholiques parlent de l'homosexualité, mais en fait, dans leur quotidien, ils n'en connaissent pas. Et moi, de les côtoyer, je peux aussi rentrer en profondeur dans leurs histoires, dans ce qui les a menés sur ces difficultés de vie. Je peux aussi prier pour eux. Et inversement, ils ont parfois été blessés par l'Église ou par des gens d'Église. Et par ma rencontre, peut-être qu'ils se réconcilient peut-être un peu plus. Et rien que ça, moi, je ne demande pas plus. De toute façon, le Seigneur ne me demande pas plus et il me donne ce qu'il veut. Mais c'est déjà beaucoup pour moi dans ce milieu.
Alors, quand on est converti, généralement, on a une période tout feu, tout flamme. Et puis, suivie d'une période de désert où l'on réatterrit et où l'on doit persévérer dans l'ordinaire du quotidien qui n'est pas toujours très exaltant. Et puis, comme par hasard, on peut avoir des épreuves, des bâtons dans les roues. Est-ce que vous avez connu ça ?
Oui, parce que pour les raisons qu'on c'était un peu tout à l'heure, parce que forcément il y a une rupture avec la famille, parce que parce que parfois, dans le milieu catholique, on l'avait peut-être un peu idéalisé. On se rend compte qu'en fait, on est tous des pécheurs qui faisons comme nous pouvons. Il y a aussi les grandes questions théologiques qui m'interpellent. Mais j'ai quand même cette conviction profonde dans le cœur que l'Église détient la vérité et que nous, les hommes, on essaye de suivre cette vérité, ce chemin, pour avoir la vie éternelle, mais que c'est difficile, que la vie est dure, en fait. Et ça, je l'éprouve vraiment aujourd'hui. Le Seigneur, quand il quitte, il me dit « Je vous laisse ma paix et ma joie ». C'est une joie profonde, mais il nous laisse aussi la croix, il nous laisse aussi les deuils, les difficultés, les incompréhensions. Mais à chaque fois que je vis une épreuve, une incompréhension, un deuil, ça m'unit encore plus au Christ, parce que je me dis qu'il l'a traversé et qu'il l'a porté. Et donc finalement, oui, à la joie de la résurrection, et toutes ces joies et tout ce qu'on vit de beau dans ce monde ne sont que des gouttes qui préfigurent le torrent d'amour de la vie éternelle. Mais tout ce qu'on vit de difficile, de douloureux, nous montre aussi ce que le Seigneur a vécu par sa passion et par sa croix. Et il y a presque même une joie à s'unir à ces douleurs qu'il a portées, qu'il continue de porter. Et tout est grâce. Donc voilà, même si effectivement il y a toutes ces difficultés, il y a aussi cette grâce rendue à Dieu. Dieu ne nous éprouve jamais plus que ce qu'on ne peut supporter. Et donc voilà, je lui rends grâce aussi pour toutes ces difficultés que je vis et que je vais vivre à sa suite.
Près de 10 ans après votre conversion, enfin plus de 10 ans après votre conversion à la foi chrétienne, en quoi êtes-vous transformé?
Je suis transformé dans le sens où je suis un homme libre. Libre d'aimer, libre de le suivre, libre parfois de ne pas le suivre pour mieux me replonger dans ses bras. Ça a profondément changé le regard que je portais sur l'homme, que je porte sur moi. Je dirais que j'ai un regard d'amour sur le monde, sur les autres et sur moi-même que je n'avais pas avant. Et que j'essaye au quotidien d'entretenir par l'Eucharistie, par la contemplation, par le regard du pauvre aussi dans la rue, voir le Christ dans le visage de l'autre. Voilà, c'est ce regard d'amour que je n'avais pas avant. C'est peut-être la chose qui a le plus changé dans ma vie. Ouais.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, qui l'a soit préparé ou enclenché, ou qu'il a approfondi, que vous voudriez nous recommander?
Alors pareil, j'ai hésité entre deux. Non, je dirais Introduction à la vie dévote de François de Sales, Saint François de Sales, qui m'a beaucoup accompagné et que je redécouvre à chaque fois, à chaque période de ma vie. Il me parle, il m'accompagne. C'est le père spirituel. Au quotidien, quand je ne peux pas voir mon père spirituel, je me mets à l'école de Saint-François de Sales. Et puis Saint-François de Sales m'a aussi beaucoup accompagné dans ce qu'il a porté. On dit que c'est l'apôtre de la douceur, alors que c'était quelqu'un de très colérique, comme j'ai pu être quelqu'un de très colérique. Ça me parle beaucoup. Mais donc, ouais, Introduction à la vie dévote de Saint-François de Sales.
En plus, il y a eu la traduction en français contemporain qui aide,
qui
aide beaucoup à la lecture. Oui,
oui, mon Dieu.
Quel conseil pourriez-vous donner à un converti pour persévérer dans la foi?
Un chrétien seul est un chrétien en danger. Et je crois qu'on a des sources d'eau chaude qui nous réconfortent, qui sont les monastères. Et voilà, je ne peux qu'inviter tout converti ou tout chrétien à aller se rebrancher à cette source de frères, de sœurs, d'épouses du Christ qui sont là, qui prient pour le monde et d'aller se rebrancher de temps en temps. Voilà, ça recharge les batteries.
Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée.
Oui, c'est le « Je vous salue Joseph » que j'apprends à découvrir dans ma vie d'homme masculin et dans ma vie d'époux. Et que j'ai découvert aussi par les Chevaliers de Colomb, qui sont un mouvement d'hommes très beau dans l'Église. Et donc c'est le « Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé sur vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. »
Elle vous dit quoi, cette prière ?
Elle me dit chaque chose, des choses nouvelles. Saint Joseph, c'est vraiment l'apôtre du silence. Moi, j'ai quand même une grande bouche. C'est celui qui s'efface, alors que, voilà, moi, je suis comédien et j'aime bien être en avant. Et puis, c'est celui qui veille sur le Christ, qui veille sur les autres, qui accompagne. Et effectivement, je crois que c'est vraiment un guide pour tout homme, pour à la fois prendre soin de Dieu et voilà, prendre soin aussi de l'homme masculin, parce que moi, elle me parle surtout en tant qu'homme. Ouais, j'ai l'apôtre le saint de la patience, de l'effacement, de l'humilité, du silence.
Ma toute dernière question, c'est: que diriez-vous au Seigneur aujourd'hui s'il était là en face de vous? Qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre conversion?
Merci. Merci de m'avoir permis de te répondre. Merci de m'aimer tel que je suis, et pardonne-moi de ne pas t'aimer comme tu le mérites.
Merci beaucoup, Mehdi.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Mehdi et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser votre question à Mehdi, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.